I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nous sommes en compagnie d'Olivier Grasset et on parle des lunes, des planètes géantes, de l'eau. On va s'arrêter évidemment sur Jupiter. Il y a quatre siècles, un petit peu plus de quatre siècles, Galilée pour la première fois pointait sa lunette en direction de Jupiter et des satellites qu'on dit galiléens maintenant, Io, Europe, Ganymède, Callisto. Est-ce que c'est la même histoire? Est-ce que, je dirais, il y a un objet, entre guillemets, plus intéressant que d'autres vers lequel on peut se concentrer aujourd'hui pour revenir, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, dans l'environnement, dans le système jovien?
Vous ne me ferez pas dire que l'un d'entre eux est plus intéressant qu'un autre. Je vais vous donner pour chacun d'entre eux la raison pour laquelle on peut y retourner. Io est un corps qui possède encore un volcanisme extrêmement actif. Vous les comptez sur les doigts d'une main, les corps qui ont un volcanisme actif dans le système solaire. Io est une boule de fer avec des roches, beaucoup de soufre, et un volcanisme actif à cause des forces de marée, les interactions entre les différentes lunes et Jupiter. Une raison pour retourner à Io, c'est étudier un volcanisme que vous ne trouvez, et une dynamique que vous ne trouvez dans aucun autre corps du système solaire. Europe, la deuxième, est une lune de 1500 km de rayon à peu près, beaucoup plus petite que notre propre lune. Enfin, on va dire, franchement plus petit en fait. Et cette lune-là est intéressante, on le sait, parce qu'elle a très probablement un océan sous une couche de glace qui fait, alors, océan plus couche de glace, une centaine de kilomètres d'épaisseur. On en est à peu près sûr. Le très gros intérêt d'Europe, c'est que l'océan est en contact avec les silicates, dans des conditions qui sont exactement les mêmes que celles qu'on a dans le fond des océans terrestres. Même pression, même température, même conditions physico-chimiques. Ça reste à prouver, mais c'est ce qu'on pense aujourd'hui. De là à dire que c'est un monde habitable, il n'y a qu'un pas à franchir qu'énormément de gens ont déjà franchi. Donc son intérêt est là. Ganymède, après, beaucoup plus grosse. Ganymède, 2500 et quelques, 75 je crois, kilomètres de rayon, plus gros que Mercure. C'est une planète en soi. Ganymède possède un champ magnétique propre, a eu une histoire géologique, possède un océan, possède un noyau. Comme elle a un champ magnétique propre, elle a un noyau dynamique, elle a tout un tas de caractéristiques d'une vraie planète. En fait, vous pourriez dire que vous pouvez aller explorer Ganymède comme vous allez, comme l'ESA va aujourd'hui explorer Mercure, et comme la NASA explorer Mercure, ou la Lune, ou même Mars. D'accord, c'est une planète en soi, et qui a un océan, donc qui a aussi un potentiel vis-à-vis de cet habitat liquide. C'est plus complexe qu'Europa, on y reviendra sans doute, mais. Voilà. Quant à Callisto, c'est un astre mort. Donc bon, je dirais pas trop d'intérêt. La surface est extrêmement vieille, 4 milliards d'années, extrêmement cratérisée, aucune activité depuis le tout début. Oui, mais c'est le seul et unique témoin de l'histoire du système jovien. Et si on retourne sur Callisto, c'est la seule façon d'avoir une meilleure contrainte sur l'origine du système de Jupiter. Ça, et Jupiter elle-même, bien sûr. Mais Callisto a aussi un intérêt évident. Donc, suivant où vous mettez votre priorité, vous n'allez pas aller sur la même Lune ou dans le contexte de Jupiter.
Ça, c'est les plus gros. Il y a d'autres satellites?
Il y en a plein d'autres, beaucoup plus petits. C'est-à-dire que, alors que juste, c'est peut-être une différence, par exemple, puisqu'on est dans le détail, avec le système de Saturne, où sur Saturne, ben, il y a Titan qui est très gros, Encelade est beaucoup plus petit, puis il y a un intérêt à cause de son activité au pôle sud, il y a plein de choses comme ça. Puis il y a tout un tas d'autres lunes qui sont aussi, et qu'on se dit, ce serait dommage de ne pas y aller. Dans le système de Jupiter, on ne se pose pas trop la question. On se la pose sur les quatre. Et puis après, si on peut voir les petits qui sont pas très loin des anneaux, ou si on peut voir les satellites irréguliers qui sont beaucoup plus loin, bah tant mieux, mais ça ne justifiera pas une mission. Il y a vraiment un très grand ordre de grandeur entre les quatre galiléens, sur lesquels on les considère comme des planètes en quelque sorte, enfin, en termes d'intérêt scientifique, alors que les petites lunes, bon évidemment, intéressent toujours les gens spécialisés dans les origines, parce que c'est des corps indifférenciés, etc., mais c'est vraiment plus petit, et en fait, on n'en sait pas grand-chose aujourd'hui.
Comment savez-vous aujourd'hui qu'il existe de l'eau liquide sous la glace? Et vous utilisez le mot mer en disant nous pensons que. De quelle preuve disposez-vous pour le dire aujourd'hui, autant sur Europe que Ganymède?
On n'a pas de preuve irréfutable. C'est-à-dire que tous les arguments laissent à penser qu'il y a des couches liquides sous la croûte de glace d'Europe et Ganymède. Le premier d'entre eux, mais s'étant, on va y retourner pour le prouver. Voilà. Mais l'argument premier, en fait, c'est l'existence de champs magnétiques induits. Pour les champions de la physique, ils se rappellent de la règle des trois doigts, peut-être, quand ils étaient jeunes. Ou peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, donc pour eux, c'est tout frais. En fait, Europa et Ganymède baignent dans le champ magnétique de Jupiter. Et si vous avez une enveloppe qui est conductrice dans ces lunes, cette enveloppe conductrice, si elle a un mouvement, va en fait générer un champ magnétique induit. C'est le principe de l'électricité, si vous vous rappelez, vous avez un champ magnétique, vous faites passer un courant, un mouvement avec des particules conductrices, et vous générez un champ magnétique induit avec l'orientation des trois doigts. Ben, c'est exactement ça qu'on voit sur Europa et Ganymède. En fait, lorsque Galiléo, la sonde, a survolé ces lunes, c'est aussi valable pour Callisto d'ailleurs, lorsque la sonde a survolé ces lunes, elle a détecté un champ magnétique entre guillemets parasite, c'est-à-dire que quelque chose qui se détachait totalement du champ jovien, et la seule et unique explication possible, c'est qu'il y a une couche conductrice en profondeur, et qui n'est pas le noyau de fer. On en est sûr parce qu'il est beaucoup trop profond. Donc voilà, ça c'est pas encore une preuve parce qu'on n'a pas assez de données pour caractériser champ magnétique induit, on a juste détecté cette perturbation, et de là on en a déduit des choses, mais c'est un des meilleurs arguments. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Sur Europa, il y a la dynamique de la surface, on se rend compte d'une surface très jeune, très fracturée, qui justifie pas nécessairement par l'existence d'une couche liquide, mais qui peut s'expliquer par l'existence d'une couche liquide. On voit ces grandes failles avec des matériaux un peu bizarres qui sont remontés, on pense que c'est des sels, de là à dire qu'il y a un océan salé, il y en a qui n'hésitent pas à franchir le pas. Bon, moi je ne le franchis pas encore, il faut le prouver, parce qu'on n'est pas sûr que ce sont des sels. Mais tous ces arguments mis ensemble, à commencer par ces champs magnétiques induits, nous font penser que oui, il y a des couches liquides.
Sur les documents que vous publiez, on voit souvent des coupes de ces satellites. On a l'impression que vous avez descendu une sonde. On voit parfaitement un noyau. On voit une épaisseur de glace avec quelques marges. Hein, c'est marqué entre 40 et 100 km d'épaisseur. Ouais. Pareil pour l'eau. Comment savez-vous cela ? Ce sont, j'imagine, des modèles.
Parfaitement, ce sont des modèles. Pour le dire très simplement, c'est parce qu'on a au départ la masse et le rayon, d'une part, et ensuite ce qu'on appelle le moment d'inertie, qui nous donne le degré de différenciation. C'est-à-dire, comme le principe d'une toupie qui tourne plus ou moins vite, le moment d'inertie, ce qu'il va nous dire, c'est si la masse est concentrée au centre, ou plutôt à l'extérieur. Le système ne va pas avoir la même façon de tourner, ne va pas avoir le même moment d'inertie. Alors, si vous voulez faire... une planète ou une lune dans le système solaire, c'est pas compliqué. Il vous faut du fer, des cailloux, de l'eau. Et ce qui est sympa avec ces trois éléments, c'est qu'ils ont des densités ou des masses volumiques, en kilogrammes par mètre cube, très différentes. Un facteur 3 de différence. En fait, avec un mètre cube d'eau, vous avez une tonne. Avec un mètre cube de roche, vous avez entre 3 et 5 000 kilogrammes. Et avec un mètre cube de fer, vous avez 10 000 kilogrammes. Donc c'est franchement différent. Et comme c'est franchement différent, vous ne pouvez pas mettre au hasard la proportion de ces trois éléments pour respecter une masse et un rayon donné. Donc ça, c'est le modèle à l'échelle 1, à l'ordre 1, mais ça marche très bien. Vous n'allez pas vous tromper beaucoup. Si vous trouvez, avec vos estimations de densité du fer, des silicates et de l'eau, vous n'allez pas vous tromper beaucoup quand vous dites que Ganymède a 50% d'eau. Quand je vous ai dit ça au début, c'est d'abord parce que je connais sa masse et son rayon, il n'y a pas 36 000 manières. On le savait avant d'avoir fait la mission Galiléo, bien avant. Les premières estimations précises du rayon de Ganymède nous permettaient de dire, je n'étais pas là à l'époque évidemment, mais ça permettait de dire sans ambiguïté qu'il y avait 50% d'eau sur cette lune. Après, ce qui est plus délicat, c'est que quand je dis qu'on fait ça simplement avec un noyau de fer, une enveloppe de cailloux et puis au-dessus cette enveloppe de glace, ça nécessite quand même de supposer que le corps est parfaitement différencié et qu'il n'y a pas un mélange possible entre une vraie bouillie entre ces trois éléments. Bon, ça c'est d'autant plus vrai que la masse est importante, on n'a pas trop d'ambiguïté là-dessus, excepté pour Callisto, où de fait on est peut-être dans un contexte, c'est ce que nous donne le moment d'inertie, hein, c'est l'information qu'il nous donne, le moment d'inertie de Callisto peut laisser penser qu'il n'est pas totalement différencié.
D'où sa mort totale, quoi.
D'où le fait qu'on pense qu'il a été inactif depuis le début. Oui. Et pour autant, on a du mal à expliquer pour comment un caillou qui est trois fois plus dense que la glace va rester en quelque sorte mélangé à la glace sur 4 milliards d'années. Bon, la température joue, hein, parce que la glace, il ne faut pas oublier que la glace du frigo, elle n'est pas dure. Celle qui se trouve à 150 Kelvin, enfin à moins 120 degrés, elle est plus dure que la roche à la surface de la Terre. Hein. Mmh. Donc bon... on peut trouver des explications, mais c'est pas simple.
Et est-ce que les noyaux de ces satellites géants sont chauds ou est-ce qu'il y a encore une activité thermique?
Oui, pour Europa et Ganymède, je peux pas. On a du mal à dire. Je veux dire, je vais vous dire oui, mais je vais pas vous dire en fait il y a 1000 degrés ou il y a 1500 ou il y a 2000 degrés. On ne sait pas ça. On pense. Enfin, par exemple, le cas de Ganymède avec son champ magnétique intrinsèque, hein, propre en plus du champ induit dont on parlait tout à l'heure. Là. Ganymède, c'est compliqué parce qu'il y a le champ jovien, il y a le champ magnétique propre, il y a le champ magnétique induit à cause d'une couche liquide. Mais ce champ magnétique propre, quelque part, nécessite une dynamique de noyau. Un noyau de fer froid n'est pas trop compatible avec un champ magnétique propre. Donc voilà, tous ces... Pour Europa, on va plutôt dire ça parce qu'il y a une telle activité géologique en surface qu'il y a de l'énergie interne. Donc oui, on sait que c'est des corps actifs. Nos modèles, comme vous dites, on peut en faire plein des modèles. On n'a pas assez de contraintes pour donner aujourd'hui une information sur la température interne ou ces choses-là.
Alors, la première mission spatiale qui va revenir dans le système jovien part dans quelques semaines. C'est une mission américaine qui s'appelle Juno, si mes informations sont bonnes. Oui. Mais elle n'est pas du tout dédiée à observer les satellites de Jupiter, puisqu'elle s'intéresse majoritairement à la magnétosphère, au champ magnétique de Jupiter. Est-ce que vous allez quand même utiliser cette mission pour apprendre des choses supplémentaires sur ce monde ?
Juno est uniquement focalisée sur la planète Jupiter. Donc en effet, en partie le champ magnétique et aussi en partie sur l'atmosphère profonde de la planète. Et elle essayera même cette mission d'explorer la structure interne. Bon, elle est vendue comme telle, elle va avoir certaines difficultés à explorer le cœur même de Jupiter. On ne pense pas qu'elle y arrivera, mais elle va essayer d'aller voir un petit peu comment se structure la planète. Mais elle ne fait que la planète. Elle ne peut pas aller observer les lunes, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne fera aucune observation des lunes. Donc c'est un objectif très ciblé qui, pour nous, sera... Enfin, si on parle d'une mission vers les lunes, future, en fait, Juno est une mission qui, ayant étudié déjà de façon assez significative la planète, va permettre à une mission future de... faire du suivi temporel en quelque sorte. On a eu Galiléo avant, Voyager il y a très longtemps. Juno va apporter énormément de détails. S'il y a une autre mission dans 20 ans, voilà, on a un suivi temporel de l'atmosphère, de la dynamique, de ces choses-là. On va pas forcément étudier les mêmes choses pour essayer d'aller plus loin. Mais pour les lunes, soyons clairs, elle va faire zéro, la mission Juno.
Et pour Jupiter lui-même, on parlait de l'eau en démarrant cet entretien, la présence de l'eau dans Jupiter, on aura des informations supplémentaires ?
Je crois que oui. J'avoue que je me rappelle plus des objectifs affichés sur la composition de la planète, mais il me semble qu'il va y avoir des choses. Mais je rappelle que l'eau, en termes abondantes, n'est pas dans l'atmosphère, elle est au fond et très très loin. Donc, mais c'est un des débats justement de Jupiter, c'est de savoir quelle est la taille de son noyau. Cette mission n'y répondra pas dans le détail, mais dans ce noyau, l'eau est là. Les planètes géantes, on a les éléments légers hydrogène et hélium, dans lesquels il y a plein d'impuretés, dont l'eau, qu'on va trouver, mais c'est pas le principal élément qu'on va rechercher. Et l'eau, en termes plusieurs fois la masse terrestre, la quantité d'eau qu'il y a dans Jupiter, elle est dans son noyau, surtout. Et ça, Juno le verra pas, évidemment.
Alors, c'est aux États-Unis ce qu'on appelle une petite mission, hein, moins de 600 millions de dollars, si mes souvenirs sont
c'est
bons.
C'est ça, oui. C'est une Discovery.
Discovery. C'est pas Galiléo, hein. Galiléo, c'était vraiment du lourd, hein. C'était vraiment du sérieux. C'est pas que ce soit pas sérieux, mais en termes budgétaires, vous faites partie des personnes qui, aujourd'hui, au sein de... je dirais du monde scientifique propose à l'Agence spatiale européenne et aussi je dirais à la NASA une mission connue donc sous le nom de Laplace pour un retour plus exactement européenne Europa Jupiter System Mission EJSM Laplace. pour un retour donc d'une mission spatiale dans l'environnement Jupiter, avec l'étude spécifique de Europe, Ganymède, mais vous allez peut-être m'arrêter. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quels sont les buts scientifiques de cette mission avant qu'on parle de la mission elle-même et ce qu'elle pourrait faire ?
Alors, la mission IJSM-Laplace, qu'on va appeler Laplace pour être plus simple à partir de maintenant, est une mission qui, au départ, était conjointe entre l'ESA et la NASA. On parlera de son évolution après. Et vraiment focalisée sur l'habitabilité des lunes de glace. Et l'habitabilité ne veut pas dire la vie. C'est pas la recherche de la vie, c'était l'exploration des océans, en fait, des deux principales lunes que sont Ganymède et Europa. Donc le principe, c'était d'envoyer deux engins spatiaux, un américain, NASA, l'autre européen, un pour se mettre en orbite autour d'Europa, l'autre pour se mettre en orbite autour de Ganymède, et explorer les couches liquides, les caractéristiques internes, toute la dynamique de ces deux lunes. En plus de ça, faut comprendre que pour aller se mettre en orbite autour de ces lunes, on est loin de Star Trek encore aujourd'hui, donc c'est relativement difficile à faire. Il faut orbiter dans le système, il faut devoir se faire capturer par Jupiter, et puis ensuite orbiter dans le système pendant presque 2 ans, avant de pouvoir approcher et se mettre en orbite sans que ça coûte trop cher, on va dire, en carburant. Presque 2 ans, 1 an et demi. Pendant cette année et demie, voire 2 ans, suivant les scénarios qu'on avait, en fait, il faut faire de la bonne science aussi, et c'est là qu'on doit, on pouvait, avec cette opportunité d'avoir 2 engins en même temps dans l'environnement de Jupiter, faire tout un panel de nouvelles sciences, en fait, avec les interactions possibles en termes de mesures, des observations stéréo sur les planètes, en particulier pour les champs magnétiques, c'était capital d'avoir 2 points de mesure pour le problème dynamique de l'évolution des champs, c'était quelque chose de très important. On a travaillé sur la valorisation de cette opportunité, valorisation scientifique, cette opportunité d'avoir 2 engins dans le système pour aller étudier Callisto, Io, les petites lunes si on pouvait, caractériser le champ magnétique de Jupiter, travailler sur l'atmosphère et la dynamique de l'atmosphère jovienne en même temps. Et enfin, puisque de toute façon on n'avait pas le choix, autant le faire, et puis après on finissait sur les lunes, et là c'était une exploration avec une mise en orbite en fait sur ces 2 principales lunes.
Et excusez-moi, avant d'arriver aux lunes, ça veut dire que d'avoir 2 engins vous donne quelque chose que vous n'avez pas quand vous êtes seul, une vision stéréo, on peut dire ça? Alors, comme ça, un point de vue différent.
D'abord et avant tout, faut pas trop exagérer cette plus-value, c'est d'abord de la complémentarité, c'est-à-dire qu'à la limite, s'ils ne viennent pas en même temps, c'est pas forcément dramatique, mais c'est vrai que comme ils n'ont pas exactement les mêmes instruments scientifiques, le fait de... On peut faire une complémentarité énorme, parce que l'un d'entre eux va survoler une lune, l'autre s'y mettra en orbite plus tard, et on sait que comme l'autre est passé avant, on peut se permettre de ne pas avoir un instrument, parce qu'au final, on aura quand même tout, quoi. Donc ça, c'est de la complémentarité, et elle était très, très bénéfique. Au-delà de ça, il y a une réelle synergie possible, en particulier sur les champs magnétiques. Prenez l'exemple de Ganymède. Comme je vous le disais, il y a 3 champs. Il y a le champ induit, il y a le champ propre, et il y a le champ jovien qui vient perturber tout ça. Il est évident qu'avoir une mesure à l'extérieur de l'environnement de la Lune, au niveau du champ jovien, pour savoir à cet instant même quelles sont les caractéristiques du champ jovien, va considérablement simplifier la caractérisation du champ propre et du champ induit de Ganymède. Si on n'a qu'un seul engin qui baignait dans les 3 champs, arriver à séparer les 3 composantes est relativement plus difficile que quand on en a déjà un qui est identifié à l'extérieur. C'est un exemple très concret qui illustre le type de synergie qui est envisageable avec 2 engins dans l'espace. Il y en a plein d'autres, en effet, entre autres cette possibilité d'observer avec différents endroits. On avait des possibilités de sonder l'atmosphère de Jupiter par émission radio, parce qu'en fait on utilise un des engins comme émetteur, l'autre comme récepteur, et ça permet de faire des trajectoires rasantes, on va dire, en radio sur l'atmosphère de Jupiter, et de sonder sa composition. Il y a plein de choses comme ça qui étaient concevables et qui étaient réellement, je dirais, de la science nouvelle.
Alors vous dites été, mais on va en parler. L'objectif final pour la partie européenne, c'est
Ganymède. Oui.
Pour troubler les cartes, américain, Europe et européen.
Exactement. Oui, on peut le dire comme ça.
Pourquoi Ganymède?
La réponse peut être longue. Il faut de toute façon faire un choix. Historiquement, au tout début de la conception de ce projet, l'Europe, comme les États-Unis, on ne travaillait pas ensemble. Et l'objectif numéro un, c'était d'aller sur Europa, ou sur Europe. Ensuite, quand on a combiné les deux projets, parce qu'il s'avérait que ce n'était pas possible financièrement, ni pour l'un ni pour l'autre, de le faire tout seul, dans son coin, on a commencé à retravailler les choses. On s'est dit, bon, de deux choses l'une, soit en Europe, on remet tout à plat, et on envisage que la contribution européenne, ça va être par exemple de mettre un élément au sol à la surface d'Europe, et on oublie l'engin spatial. Soit, à l'inverse, on dit, ben, eux, ils envoient quelque chose sur Europe, parce que côté américain, il n'était pas question pour eux de revenir en arrière, ils ne pouvaient pas changer d'objectif. Et côté européen, ben, nous, on va regarder autre chose. Alors, bon, ça, c'est l'historique. Derrière ça, il y a un problème fondamental, qui est que retourner sur Europa, indépendamment des intérêts scientifiques, est extrêmement complexe et coûteux, à cause des radiations. Et l'Europe aujourd'hui, dans l'enveloppe budgétaire qu'elle s'est donnée, n'a pas les moyens d'envoyer quelque chose en orbite autour d'Europa. Ça, c'est le côté pratique. Pour revenir à la science elle-même, c'était mon préambule, vous prenez n'importe laquelle des quatre lunes, elle a un intérêt scientifique. Si vous mettez l'exobiologie en élément premier, vous allez naturellement sur Europa. Si vous faites de la planétologie comparée et vous regardez un petit peu les problèmes des champs magnétiques, les problèmes des structures internes, toutes ces choses-là, Ganymède est de très loin votre cible privilégiée. Ganymède, pour parler aux astronomes qui aiment bien les exoplanètes, Ganymède, c'est le modèle réduit idéal d'une exoplanète riche en eau. Europa, c'est un contexte extrêmement particulier. Le modèle réduit de ce qu'on appelle les planètes océans, c'est Ganymède. Ganymède, au niveau champ magnétique, c'est un des très rares corps du système solaire qui possède un champ magnétique propre. Vous en parlez aux gens qui ont été motivés pour aller sur Mercure, ils n'avaient pas réalisé que Ganymède vaut tout autant le coup, voire plus, parce qu'entre son champ magnétique propre, son champ induit et tout ça baigné dans le champ jovien, il y a de quoi exciter un paquet de gens de la communauté plasma et magnétosphère pendant un paquet d'années. Au niveau des structures internes, il a aussi une couche liquide, et personne ne peut affirmer aujourd'hui que ce n'est pas un environnement habitable, tant qu'on n'y est pas retourné. Donc voilà, et franchement, je suis le premier, pas fautif, mais je reconnais, on ne s'était pas forcément assez focalisé sur l'intérêt de Ganymède parce que l'exobiologie nous entraînait naturellement sur Europa. Bon, il ne faut pas se voiler la face, l'Europe n'a pas les moyens. Aujourd'hui, le budget américain annoncé pour retourner en orbite autour d'Europa, c'est 4,7 milliards de dollars. Nous, on parle d'une mission à 850 millions d'euros. Plus les contributions, enfin, on rentre dans la technique, mais bon, côté ESA, 850 millions d'euros, on n'est pas du tout sur le même braquet. De toute façon, il n'est pas possible pour l'Europe de retourner sur Europa et de se mettre en orbite.